morning edition from NPR News.
Sam Seating, Sandeep Dalhousie.
France Inter, le 18-20.
L'OTAN a 70 ans et la question qu'on a envie de poser au fond c'est à quoi elle sert encore, l'Alliance Atlantique? Est-ce qu'en la déclarant en état de mort cérébrale, Emmanuel Macron a secoué le cocotier ou fragilisé l'institution? Ses propos en tout cas il les a réitérés. Les buts de l'OTAN, quels sont-ils 70 ans après sa création? Comment on gère un Trump ou un Erdogan? Désormais nous essaierons d'apporter quelques réponses. Le bruit du monde est en Corée du Sud ce soir où on mise sur les voitures à hydrogène plutôt qu'électriques et Amélie Perrier nous amènera en Inde ainsi qu'au Royaume-Uni où le savez-vous, les trains sont en grève. 18h50, passons genre dans le monde, c'est Julia Foyce avec des images ahurissantes d'une émission de télé-réalité, c'est en Espagne. Et Megan Rapinoe, Ballon d'Or, dont on a curieusement beaucoup moins parlé que de Lionel Messi. 18h55, le monde à l'envers et Jean-Marc Fourreau, comment l'Iran réprime à huis clos, preuve, nous dira Jean-Marc, d'un état faible. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure, bonsoir.
Fabienne Sintès. Un jour dans le monde.
Bonsoir Bertrand Maddy.
Bonsoir.
Professeur des universités à Sciences Po Paris, notamment spécialiste de relations internationales. Votre dernier ouvrage s'appelle « L'hégémonie contestée, les nouvelles formes de domination internationale ». C'est publié chez Odile Jacob. En d'autres temps, Bertrand Maddy, on aurait passé cet anniversaire de l'OTAN probablement sans trop y toucher, ou en tout cas tout le monde aurait se serait félicité d'être toujours vivant, toujours cette vieille alliance encore debout. Mais Emmanuel Macron donc a choisi de mettre les pieds dans le plat le mois dernier en parlant de mort cérébrale, pendant que, et précisément aussi parce que l'OTAN est contournée par les États-Unis, notamment lorsqu'ils se retirent de Syrie, par les Turcs qui sont en guerre contre les Kurdes, qui sont nos alliés sans nous le dire non plus, des Turcs qui achètent aussi des missiles russes et rejettent un plan de défense pour les pays baltes et la Pologne. Bref, l'image est moins harmonieuse que certains l'auraient souhaité. Est-ce qu'on dit que l'OTAN est sinon morte, en tout cas très branlante sur ses fondations, grande fragilité, c'est ce qu'on nous dit aujourd'hui, Bertrand Maddy, ou pas?
Bah écoutez, il y a un problème. Depuis le 9 novembre 1989, dont on a célébré l'anniversaire, les 30 ans récemment, c'est-à-dire que depuis le 9 novembre...
Donc la chute du mur. Hein.
La chute du mur, effectivement, l'OTAN a perdu son vis-à-vis. Mmh. Or, il faut voir ce qu'est cette alliance. Il faut surtout comprendre ce qu'est une alliance. Une alliance, c'est pas une coalition comme ça d'États qui se retrouvent chaque année pour célébrer leur amitié. C'est beaucoup plus que ça. Une alliance, c'est une coalition durable, fondée sur des valeurs réellement partagées et avec un plan, une ambition pour l'avenir et la transformation du système international. C'était parfaitement dans le ton en 1949, lorsque l'OTAN a vu le jour dans un contexte de guerre froide forte et où effectivement l'hégémonie américaine sur l'OTAN était toute naturelle, fonctionnelle, méritée, on sortait d'une guerre que les États-Unis avaient gagné, est naturel. Aujourd'hui, le contexte a complètement changé. Il n'y a plus personne en face. Le pacte de Varsovie, qui faisait le symétrique de l'OTAN, a disparu. L'extension géographique, on n'en parle pas assez, ça, de l'OTAN, a complètement débordé de son nom. Son nom, c'est l'Alliance Atlantique. Or, on voit l'OTAN s'élargir loin vers l'Est, là où l'Atlantique commence à être très très loin. Et on voit surtout, on a vu surtout, l'OTAN opérer en Afghanistan.
C'est ce que j'allais dire. C'est le Pamir. C'est pas seulement le périmètre des pays de l'OTAN, c'est aussi les interventions de l'OTAN qui nous perdent un peu géographiquement, au fond.
Oui, pensez aussi la lutte, ce qui est une bonne chose, contre la piraterie au large de la Corne de l'Afrique. Pensez à l'intervention en Libye. La Libye, que je sache, ne borde pas l'océan Atlantique.
Mais ça veut dire qu'il faut... D'alors, est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas su se renouveler depuis 89? Parce qu'au fond, moi, je me souviens de 91 aussi, donc il y a eu des débats sur la pérennité de l'Alliance. Il y a eu ensuite, on est au début des années 2000, les guerres des Balkans, l'Afghanistan, donc on a eu le sentiment à ce moment-là qu'elle pouvait se réemparer d'autre chose, cette OTAN. Est-ce qu'on n'a pas assez remis au clair, au fond, voilà qui nous sommes et à quoi nous servons depuis 89?
Alors, le débat était presque interdit. C'est-à-dire, il y a eu des sommets, il y en a pratiquement un chaque année de l'OTAN, où on a commencé à ouvrir le dossier. Il y a notamment eu un sommet à Prague en 2002 qui était important, car c'était juste après les attentats de
l'Afghanistan.
11 septembre, et donc dans le contexte afghan, on a commencé à poser ce problème, mais on restait dans des termes extraordinairement flous, c'est-à-dire il faut préserver la sécurité de l'Europe face aux nouvelles menaces, disait-on, les nouvelles menaces, le cyberterrorisme, le terrorisme tel qu'il venait de s'exprimer à New York, mais jamais aucun de ces sommets n'a pu assurer ce renouvellement profond qui repose sur deux éléments que je voudrais bien mettre en évidence. Est-ce qu'on est sûr que l'OTAN aujourd'hui est une organisation où tout le monde partage les mêmes valeurs et la même vision du monde? Il y a le cas de la Turquie, mais sans aller jusqu'à la Turquie, est-ce que véritablement les préoccupations des États baltes et celles du Portugal sont les mêmes? C'est une question qu'on peut se poser. Et puis il y a quelque chose de peut-être encore plus important, et je crois que c'est là la clé du sujet. Lorsque l'OTAN a été créée, on a fait une alliance parce que on était dans un ordre international structuré, organisé par ce clivage Est-Ouest. On est aujourd'hui dans un système international extrêmement fluide, où selon les enjeux, les coalitions sont différentes, les intérêts sont diversifiés. Et au milieu de tout ça, l'OTAN ne peut se survivre, c'est peut-être aussi un danger, que dans l'affirmation identitaire. C'est plus les valeurs. Donc, c'est nous sommes l'Occident et nous avons vocation à dominer le monde.
Mais donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut une doctrine? Il faudrait redéfinir une forme de doctrine pour qu'on puisse à nouveau être sur des bases plus solides? Est-ce qu'il faudrait ça?
Il faudrait se poser la question. Est-ce que on est dans une conjoncture où une alliance militaire entre un nombre limité, choisi d'États est nécessaire et indispensable? Parce que il ne faut pas oublier que nous avons à côté du modèle otanesque d'autres modèles qui ne demandent qu'à vivre. Nous avons le multilatéralisme onusien qui, c'est vrai, n'a pas fait de performance en matière de sécurité, mais peut-être serait-ce plus inspiré que de le réveiller. C'est d'ailleurs ce que le président de la République avait proposé dans ses deux discours devant l'Assemblée générale des Nations unies. Il y a les grands ensembles régionaux qui n'existaient pas quand l'OTAN a été créé. Encore une fois, quand l'OTAN a été créé, c'était Est contre Ouest. Là, il y a une Europe, il y a une Afrique, une Union africaine d'ailleurs qui fonctionne relativement bien, il y a l'Amérique du Sud, etc. Est-ce que c'est pas davantage là que devrait se poser la question de la défense?
Donc, est-ce qu'on a à la question, a-t-on réellement encore besoin de l'OTAN? Je vous entends répondre, pas forcément.
Je pense très sincèrement que l'OTAN est aujourd'hui en décalage par rapport au contexte international. Les contextes internationaux qui justifient des alliances, c'est ce que j'appelais tout à l'heure ces formes de coalition durables et structurées autour de valeurs précises, ça correspond à un temps qui n'est plus notre séquence historique aujourd'hui. De même, avez-vous remarqué qu'avant l'OTAN, il n'y avait pas l'OTAN? Peut-être qu'après l'OTAN, il faut qu'il y ait autre chose.
Est-ce à dire que il a eu raison, au fond, de mettre les pieds dans le plat, Emmanuel Macron, quitte à le faire de manière peut-être brutale, puisqu'il a brusqué un certain nombre d'alliés? Est-ce qu'il a eu raison de mettre les pieds dans le plat?
Alors, je crois que ce débat dont on parlait il y a un instant à l'intérieur de l'OTAN, qui n'arrive jamais à s'expliciter complètement, était ronronnant. Je trouve que dans ces situations, dans les situations de cette nature, mettre les pieds dans le plat, comme vous dites, ou envoyer un électrochoc, peut être salutaire. Je constate que depuis que le président de la République a dit cela, chacun s'exprime. La chancelière allemande, le secrétaire général de l'OTAN, le président turc, le président des États-Unis. Donc, lancer un débat, ce n'est jamais mauvais. Maintenant, il y a une chose qui est peut-être plus compliquée. C'est que lorsqu'on met les pieds dans le plat, il faut savoir ensuite les retirer. Et retirer les pieds du plat, ça veut dire pouvoir proposer des solutions concrètes. C'est-à-dire, est-ce un dépassement? Est-ce une réforme en profondeur? Est-ce une dissolution? Est-ce une fusion avec autre chose? Le temps des propositions est venu, parce que sinon parler de mort cérébrale, lorsqu'un médecin parle de mort cérébrale et est incapable de proposer une thérapie...
À savoir si on débranche ou pas, c'est exactement comme ça que ça se passe médicalement.
Exactement.
Et pour autant, ça s'est pas très bien passé entre Emmanuel Macron et Donald Trump aujourd'hui, de ce qu'on en sait pour l'instant, c'est le moins qu'on puisse dire. Pas formidablement bien avec Erdogan non plus. Donc effectivement, vous le dites, on a peut-être parlé des choses, mais on a finalement bien rien réglé. Est-ce que l'un des arguments de Donald Trump, c'était la contribution, c'est l'argent? Est-ce que l'un des nerfs de la guerre réellement pour que au moins l'OTAN soit mieux structurée, mieux polariser, j'allais dire, l'Europe, les États-Unis. Est-ce que c'est vraiment là que l'effort doit porter? Est-ce que ça changerait quelque chose si au moins financièrement quelque chose de plus équitable, comme dirait Trump, est rétabli ou pas du tout?
Vous savez qu'il y a quand même quelque chose d'inquiétant, c'est que les dépenses militaires des États-Unis, c'est 72% des dépenses de l'Alliance, enfin des dépenses des alliés en matière militaire. C'est-à-dire que les États-Unis, à eux seuls, font le triple de tous les autres. Donc effectivement, c'est une situation qui ne peut pas durer dans un contexte qui est à la méfiance aux États-Unis à l'égard de la coopération internationale. C'est-à-dire, le monde nous coûte trop cher. Mais je crois que vous avez raison de dire que c'est le débat de fond. Parce que derrière cette mollesse, cette tétanie, cette somnolence en matière de pérennisation de l'OTAN, se cache quelque chose que j'appellerais la nostalgie. Je pense que fondamentalement, les Européens sont nostalgiques du temps de la guerre froide. C'est-à-dire de cette époque où le grand frère assurait tout, prenait tout en charge, ce qui dispensait l'Europe de deux efforts difficiles. Le premier effort, et financier, c'est-à-dire effectivement, faut mettre la main à la poche, il faudrait arriver jusqu'à 3% du PIB en matière de dépenses militaires, ce qui est inenvisageable dans le contexte économique actuel.
On n'est pas encore à 2, il y a 9 pays qui sont à 2% de leur PIB.
Donc, vous imaginez, Et même la France n'est pas à 2.
Non, faut quand même l'Allemagne encore moins.
Et l'Allemagne encore moins. Seule la Grande-Bretagne parmi les gros, si vous voulez. Et la deuxième chose, c'est qu'on oublie que l'Europe a une sorte d'ADN, c'est que l'Europe n'a existé sur le plan des relations internationales que dans la compétition entre États. Et l'idée de fusionner les politiques étrangères et les politiques de défense, l'idée qu'à Rome, à Londres, à Berlin, à Paris, à Varsovie, on ait la même politique étrangère, ça empêche les dirigeants européens de dormir. Et l'idée un peu lâche, il faut le dire, un peu facile de se dire, tant que c'est l'autre qui décide, nous n'avons pas à nous définir par rapport à notre voisin immédiat, c'est une attitude de confort dont je pense personne n'entend sortir. C'était courageux de la part d'Emmanuel Macron de le suggérer. Il n'a fait que le suggérer parce qu'il n'est pas rentré précisément sur cette considération, mais on voit les cris d'indignation de ses collègues européens, donc on n'est pas sorti de l'auberge.
Mais est-ce que l'OTAN est un bon marchepied pour envisager une défense européenne un peu plus cohérente et un peu plus ensemble, ou pas du tout en fait? Est-ce que ça nous aide, ce parapluie-là au moins, pour être meilleurs, nous, en termes de défense européenne?
En termes fonctionnels, l'OTAN, encore une fois, n'est pas adapté au contexte actuel. La formule idéale, ce serait des défenses régionales, c'est-à-dire une défense européenne, une défense africaine, une défense... On en est loin pour différentes raisons, notamment celles que j'ai envisagées. Mais avant de répondre à cette question, j'aimerais qu'on en pose une autre. C'est-à-dire, mais quelle est véritablement la menace aujourd'hui? Alors, il y a des choses qui se disent, mais vous savez, il en est de l'OTAN comme du Sahel. C'est-à-dire, est-ce que véritablement on peut opposer aux nouveaux défis internationaux les armes que l'on avait forgées pour contenir Staline et ses successeurs? Évidemment non. Et tout le problème est là. Définir une géométrie qui permettrait de répondre fonctionnellement à ces formes nouvelles de menaces, ça passerait inévitablement par un dépassement du modèle otanesque. Alors... En fait, on en est là.
Il y a eu cette phrase d'ailleurs d'Emmanuel Macron, c'est cet après-midi, l'OTAN doit s'entendre sur une définition claire de la lutte contre le terrorisme. Ce n'est pas le cas actuellement. Ça veut dire que même les missions, au fond, ne sont pas claires. Donc si les missions ne sont pas claires, de toute façon, c'est le début du problème.
Oui, et de même, on combat le canon avec le canon, on ne combat pas le terrorisme, qui, comme disait Obama, est une méthode, par le canon. On le combat par une actualisation des instruments politiques, diplomatiques et sécuritaires dont disposent les États. On est très loin de cela. Vous savez, il y avait une phrase de François Mitterrand qui était assez remarquable. Lorsque, à Rome, à la fin de l'année 91, George H. Bush annonce la pérennisation de l'OTAN, Mitterrand dit « Vous nous annoncez la Sainte Alliance ». C'est-à-dire l'Alliance, c'est-à-dire un instrument destiné à contenir l'ennemi éventuel, est remplacé par une Sainte Alliance, c'est-à-dire une façon d'exprimer sa volonté oligarchique sur le monde. Et ça, c'est très dangereux.
En l'état de l'OTAN aujourd'hui, le plus grave, Bertrand Badie, est-ce que c'est la Turquie, est-ce que c'est les États-Unis, lequel est, est-ce que l'un des deux est susceptible de faire exploser cette alliance-là ou pas?
Moi, je crois que c'est le contexte qui fait exploser. C'est-à-dire, évidemment, M. Erdogan est un provocateur. La manière dont il a répondu à Emmanuel Macron le montre bien, d'ailleurs, parce que Emmanuel Macron posait un problème. Erdogan a répondu par l'invective. Donc c'est
voire
effectivement,
l'insulte, d'ailleurs.
Voire l'insulte, absolument. Mais en fait, ça c'est l'épiphénomène. La réalité, c'est que chacun se sent mal à l'aise dans une tenue, dans un prêt-à-porter issu d'un autre temps. Non pas tant qu'on vous oblige encore à revêtir, mais que vous ne n'osez pas vous-même remplacer par une tenue plus adaptée.
Et ce sera le mot de la fin. Bertrand Badie, merci mille fois. L'hégémonie contestée, les nouvelles formes de domination internationale. C'est publié chez Odile Jacob. On vous remercie mille fois.
Merci.
Le 18-20, Fabienne Saint-Ès, sur France Inter.
La suite, ça se passe en Corée du Sud qui met le paquet sur les voitures à hydrogène et le bruit du monde, la suite. Amélie Perrier, c'est une grève des transports, mais où donc?
Au Royaume-Uni, oui, là-bas aussi on fait grève et là-bas on part pour 27 jours de grève.
Façon genre dans le monde, Julia Foyce, quel est le féminin de Lionel Messi, s'il vous plaît?
Je crois que c'est Megan Rapinoe.
Allez, on voit ça dans un instant. Jean-Marc Four, bonsoir.
Mes hommages du soir.
Le monde à l'envers en Iran, ce soir, avec une révolte écrasée, des dizaines de morts, mais tout ça à huis clos, ça dit quoi,
c'est
ce pays?
Bien, l'Iran réprime, en effet, mais ce recours à la force est aussi un aveu de faiblesse.
Et à tout de suite, tout le monde, le tour de la planète continue en musique avec l'américaine Billie Eilish. Everything I Wanted.
A dream. I got everything I wanted, not what you think. And if I'm being honest, it might have been a nightmare to anyone who might care. Thought I could fly, so I stepped off the golden. Nobody even noticed. I saw them standing right there. Kinda thought they might care. I had a dream. I got everything I wanted. But when I wake up, I see you with me. And you say, as long as I'm here, no one can hurt you. Don't wanna lie here, but you can learn to. If I could change the way that you see yourself, you wouldn't. I tried to scream, but my head was underwater. They called me weak, like I'm not just somebody's daughter. It could have been a nightmare, but it felt like they were right there. And it feels like yesterday was a year ago.
Le bruit du monde est en Corée du Sud. Ce soir, on est en voiture, mais justement dans une voiture À hydrogène, la Corée du Sud vient d'annoncer un plan ambitieux de développement des automobiles du futur et accorde une importance considérable aux voitures donc à hydrogène. Cette technologie est considérée comme plus écolo, mais présente encore de nombreux défis. Seulement quelques milliers de véhicules de ce type circulent en Corée aujourd'hui. Mais le pays qui souffre, vous le savez, on l'a beaucoup raconté, de nombreux pics de pollution, a décidé de soutenir massivement ce développement-là. Et c'est Frédéric Ojardias qui nous raconte pour Un jour dans le monde.
Nous sommes à Songam, un quartier ultra-moderne de Séoul, couvert de gratte-ciel et d'écrans géants. C'est aussi là que se trouve l'une des trois stations-service à hydrogène de la capitale. Son Ki-woon, professeur de lycée et le possesseur d'une Hyundai Nexo, qui roule grâce à une pile à hydrogène, il est venu faire le plein.
Par rapport au modèle à essence et au modèle électrique, un véhicule à l'hydrogène respecte davantage l'environnement. C'est pour cela que j'ai choisi cette voiture. Et un plein d'hydrogène ne prend que 5 minutes, alors que recharger complètement un véhicule électrique prend plus de 8 heures.
Mais Song Ki-wong ne peut pas remplir lui-même son réservoir. Explication du pompiste à hydrogène.
Seulement un employé de cette station-service a le droit de faire le plein d'hydrogène. La loi coréenne interdit en effet, pour des raisons de sécurité, aux gens de le faire eux-mêmes. J'ai dû suivre une formation spéciale.
Les véhicules à hydrogène sont considérés comme propres car leur moteur ne produit aucun gaz à effet de serre. Ils ne rejettent que de l'eau. Leur autonomie est aussi plus longue qu'un véhicule électrique. Mais cette technologie a un prix. La voiture de Song Ki-wong coûte la bagatelle de 63 000 euros. Le gouvernement offre cependant des subventions massives.
J'ai reçu des subventions de la mairie de Séoul et du gouvernement d'un montant total de 35 millions de won. C'est pratiquement la moitié du prix de l'achat. C'est incroyable. Le problème avec l'hydrogène, c'est que les infrastructures actuelles pour faire le plein sont très très mauvaises. Il n'y a que 3 stations-service pour tout Séoul. Ce n'est pas pratique du tout.
La Corée du Sud sera le leader mondial des véhicules à hydrogène d'ici 10 ans, a décrété le président Moon Jae-in, dont la voiture officielle roule désormais à l'hydrogène. Le maire de Séoul, Park Won-soon, veut lui aussi s'appuyer sur cette technologie pour réduire la pollution de l'air dans une capitale souvent asphyxiée par les particules fines. Dans son bureau, un pan entier de mur est occupé par un immense écran tactile qui lui donne en temps réel l'état du trafic dans sa ville.
Les villes ne représentent que 2% de la surface de la planète, mais elles produisent 80% des émissions de carbone. Cela veut dire que ce sont les villes qui sont le mieux placées pour s'attaquer au réchauffement climatique et encourager l'innovation. À Séoul, nous nous sommes engagés à réduire nos émissions d'une tonne de CO2 par habitant et par an.
Une stratégie qui s'appuie entre autres sur la promotion des véhicules plus propres.
Les véhicules à hydrogène sont technologiquement plus avancés et sont au final beaucoup plus économiques. C'est pour cela qu'il est important pour nous de promouvoir leur usage. Le secteur public doit prendre l'initiative et montrer la voie. Nous avons ainsi rendu la législation plus flexible afin de faciliter la construction de davantage de stations-service à hydrogène à travers Séoul.
L'hydrogène suscite cependant des craintes. En mai, le réservoir d'une usine a explosé, faisant 2 morts. Pour montrer l'exemple, une station-service a été construite juste devant le Parlement à Séoul. Le gouvernement en promet 310 autres d'ici 3 ans. Cha Sok-won, professeur au département d'ingénierie automobile de l'Université nationale de Séoul.
L'hydrogène a une longue histoire de développement. C'est une technologie qui est maintenant bien arrivée à maturation. Mais pour que ces voitures soient utilisées en masse, Le problème est leur coût, ainsi que les infrastructures. C'est pour cela que le gouvernement coréen fait des efforts aussi massifs pour encourager leur commercialisation, comme le font d'ailleurs les gouvernements chinois et japonais. Je pense que nous verrons les résultats de cette politique plus tôt que nous le pensons.
Le gouvernement prévoit 850 000 véhicules à hydrogène sur les routes coréennes d'ici 10 ans, un objectif très ambitieux, il n'y en a que 3 000 aujourd'hui.
Voilà qui intéressera notamment notre invité du téléphone, ça tient tout à l'heure, Bertrand Piccard. Frédéric Ojardias à Séoul pour Un jour dans le monde, merci beaucoup. Le bruit du monde, la suite, ça se passe sous les radars. Et avec Amélie Perry, nous sommes en Inde. Amélie, et voici un fléau qui touche les femmes.
Les agressions sexuelles et les viols. Ce n'est pas la première histoire de ce genre, mais elle provoque une colère immense dans le pays. Vous entendez derrière moi les manifestations. Elle avait 27 ans, elle était vétérinaire. Des hommes auraient crevé les pneus de son scooter pour la piéger, lui proposer de l'aide et finalement la tirer à l'écart. Selon la police, les quatre hommes arrêtés l'ont violée, tuée. Ils ont arrosé son corps d'essence et l'ont brûlé sous un pont. Ce week-end, la police a dû utiliser la force pour disperser des centaines de manifestants qui tentaient d'entrer dans le commissariat d'Hyderabad où étaient retenus les suspects. Au Parlement, les députés ont débattu de ces violences, de l'impunité. Écoutez la députée Jaya Bachan, elle commence par demander des réponses claires, appropriées à ces crimes avant de déraper sérieusement. Je sais, c'est un peu dur, dit-elle, mais je pense que ce genre d'individu devrait être amené devant le public et lynché. Lynché, répète incrédule derrière le président de séance. Voilà une élue, ancienne actrice, qui plaide pour lyncher les auteurs de viols. Le signe d'une rage populaire qui n'est pas prête de se calmer. Car hier, au moment où des centaines de manifestants marchaient à Hyderabad, à New Delhi, à Bangalore, à Calcutta et partout en Inde, la police du Rajasthan découvrait le corps d'une petite fille de 6 ans, violée et étranglée avec la ceinture de son uniforme d'école. Depuis le viol collectif d'une jeune femme dans un bus en 2012, l'affaire avait fait grand bruit déjà. Il semble donc que les pouvoirs public n'ait pas voulu ou pas pu trouver la solution pour stopper ces crimes contre les femmes.
On se prépare à la grève en France, ça vous le savez, mais contrairement à ce qu'on dit souvent, c'est pas une exception française tout
les
ça.
Les Britanniques ont déjà commencé depuis le début de la semaine pour ce qui est annoncé comme l'une des plus longues grèves de l'histoire du rail dans le Royaume. 27 jours, le RMT, le syndicat du rail, du transport maritime, appelle depuis hier les conducteurs de train à cesser le travail. Ils protestent contre la suppression d'un second agent dans les trains. C'est désormais aux conducteurs de fermer les portes des wagons, alors que jusqu'à présent c'était la tâche d'un garde. Des postes en moins, de la sécurité en moins, disent les syndicats. Et les usagers au micro des télévisions qui ressemblent étonnamment aux usagers français qui crient à la prise d'otage. Alors, le journaliste demande à celui-ci s'il comprend les raisons du conflit et le passager répond non, absolument pas. Je pense que les syndicats devraient être interdits. Un autre dit qu'il devrait penser davantage aux gens qui doivent aller travailler. Puis la dernière passagère, elle est plus modérée. Elle dit qu'elle ne peut pas imaginer qu'ils font tout cela pour rien. La moitié du service sur les lignes de la Southwestern sera assurée jusqu'à la fin de l'année. Ce sont les lignes parmi les plus utilisées de la banlieue de Londres. Elles desservent notamment la gare londonienne de Waterloo, la plus fréquentée du pays. Les grévistes ont seulement accepté de suspendre le mouvement pour les élections législatives, le 12 décembre, la semaine prochaine, pour Noël et pour le 26 décembre. Et justement, l'amélioration du transport ferroviaire, c'est un des grands thèmes de la campagne des législatives. Le Parti travailliste, la gauche, a promis de renationaliser le réseau.
Et pendant que les dirigeants de la planète font de belles promesses à la COP25 pour sauver la planète du réchauffement climatique...
Pendant ce temps, la Russie et la Chine inaugurent en grande pompe un nouveau gazoduc. Voilà le PDG de Gazprom, le géant russe des hydrocarbures en duplex avec le Kremlin. Il demande au président Poutine, cher Vladimir Vladimirovitch, permettez-moi de donner l'ordre d'ouvrir la vanne du pipeline. Et Vladimir Poutine répond « J'autorise ». Inauguration historique hier de plus de 2000 km de tuyaux, 3000 à terme, pour relier les gisements de Sibérie orientale à la Chine. L'enjeu est de nourrir l'immense appétit chinois en énergie, polluante entre parenthèses. Mais surtout, l'enjeu est diplomatique car des experts doutent que le gazoduc à 55 milliards de dollars soit un jour rentable. Un objectif politique et diplomatique en fait donc, de rapprochement entre Moscou et Pékin, la Russie depuis la guerre en Ukraine et les tensions avec l'Europe. l'Europe mise plutôt sur l'Est et son voisin chinois.
Amélie Perrier, merci beaucoup. À demain ici même. Dans un instant, l'arrivée théâtrale de Julia Foy sur du Van Morrison, s'il vous plaît. Moondance.
Well, it's a marvelous night for a moon dance with the stars above in your eyes. A fantabulous night to make romance neath the cover of October skies. You know the leaves on the trees are falling to the sound of the breezes that blow. You know I'm trying to please to the calling of your heartstrings that play soft and low. You know the night's magic seem to whisper and hush. You know the sun moonlight seems to shine in your blush. Can I just have one more morning dance with you, my love? Can I just make some more romance with you, my love? Well, I wanna make love to you tonight. I can't wait till the morning has come. Yet I know now the time is just right, and straight into my arms you will run. And when you come, my heart will be waiting to make sure that you're never alone. There and then all my dreams will come true, dear. There and then I will make you my own. And every time I touch you, you just tremble inside. Then I know how some more romance with you, my love.
Moondance de Van Morrison sur France Inter, à ne pas confondre avec le Moonwalk de Julia Foy en studio.
France Inter. Un jour dans le monde.
Julia qui chaque semaine nous donne des nouvelles des femmes dans le monde.
Vous allez dire que chaque semaine entre en Moonwalk aussi dans le studio, oui.
Et de la planète LGBT. On commence, oui. Julia, avec la femme de la semaine.
Elle a 34 ans, chacun de ses discours fait le tour de la planète. Elle a refusé une invitation de Donald Trump à la Maison Blanche. Elle est de tous les combats pour l'égalité salariale, contre le racisme, contre l'homophobie, et c'est... Ben c'est Lionel Messi, ben oui, vu qu'on parle que de lui depuis hier. Hein, pour la sixième fois, le Ballon d'Or revient côté foot masculin à l'attaquant argentin, qui du coup a pris toute la place dans nos journaux comme dans nos cerveaux, passant sous silence ou presque dans la même soirée. Pour des performances au moins similaires, hein, Megan Rapinoe recevait le même prix. Capitaine de l'équipe américaine et donc championne du monde en juin dernier, elle était fin septembre sacrée joueuse FIFA de l'année. Lionel Messi aussi, et quand Messi dit merci, ça donne ça. Ce soir est une soirée très spéciale pour moi. J'ai la chance d'avoir ma femme assise ici. Et surtout, deux de mes trois fils qui sont assis avec elle. C'est la première fois que mes enfants sont là. C'est vrai que Thiago était déjà venu une fois et il ne... Bon, on arrête là, hein, parce que ça continue encore deux minutes comme ça. Et alors, je sais, Je sais, Fabienne, c'est touchant de voir un homme fendre l'armure à un champion dans l'émotion, se dire qu'on peut avoir une très belle paire de pieds, mais aussi un cœur de père, ça fait chialer. Mais comment vous dire, personnellement, ça m'en touche une un petit peu, hein, sans faire bouger l'autre, vous voyez. Alors que Megan Rapinoe, le 23 septembre, à la remise des prix de la FIFA, et ben voilà à quoi il lui sert le micro. J'ai envie de vous parler de certains parcours qui m'ont inspiré cette année. Ceux des deux internationaux, Raheem Sterling et Koulibaly. Pas seulement pour leur performance incroyable sur le terrain, mais aussi pour la manière avec laquelle ils ont affronté le racisme dégoûtant auquel ils ont dû faire face cette année, et probablement tout au long de leur vie. Et puis cette jeune Iranienne qui s'est immolée par le feu parce qu'on lui interdisait de jouer au foot. Et on ne compte pas non plus toutes ces joueuses LGBT qui se bagarrent si durement tous les jours, pas seulement pour faire le sport qu'elles aiment, mais aussi contre l'homophobie galopante qui est toujours notre réalité. Ah ben voilà, ça a de la gueule. Du coup, les gars, j'ai une idée, vous vous occupez des gosses, hein, et pas que devant les caméras, vous les consolez, vous les couchez, vous les torchez, vous nous laissez la marche du monde, ça nous changerait.
Allez, enfin, on a encore un peu de marche si on en croit votre image de la semaine.
Qui nous vient encore de la planète foot à croire que je me suis pris une passion pour les crampions? Pour les crampions? Ben oui, les crampions, évidemment. Les croupions aussi, peut-être, tu sais pas. Savoir, réponse la semaine prochaine, je sais pas. Bref, c'est une photo de la Confédération Asiatique mise en place pour développer le football féminin. Et où, bien entendu, on ne trouve aucune femme sur la photo. Zéro, hein. Personne, que des mecs. Ce qui s'appelle au choix aller dans le sens de l'histoire ou bien avoir un certain sens de l'époque.
L'époque, Julia, c'est encore et toujours celle de la télé-réalité avec des caméras qui s'infiltrent partout.
Des candidats qu'on enferme dans une maison et qu'on surveille 24 heures sur 24. Des soirées arroseuses, bah oui, autant les filmer bourrés parce qu'en général, bon, ils n'ont pas beaucoup de tissu sur eux à ce moment-là. Ils ont l'air un petit peu débilés. Et du coup, vous savez ce qui se passe, hein, Fabienne, dans les soirées arrosées, ça, oui, ça dérape. Et oh, c'est rigolo, parfois il y a même des viols à la télé. Si, si. C'est ce qui est arrivé à une candidate de Gran Hermano, l'équivalent espagnol de Big Brother, l'ancêtre des émissions de ce genre-là. La jeune femme apparaît dans une de ses séquences phares, le confessionnal, où enfermée dans une petite pièce, elle doit réagir à des images qui ont été tournées la veille. La séquence est habituelle, enfin, pas tant que ça, parce que là, pour le coup, elle fond en larmes et en direct. Elle vient de découvrir, en même temps que le public espagnol, qu'elle a été violée pendant l'une de ses fêtes. Alors qu'elle avait perdu connaissance, et par l'un des garçons de la villa. La vidéo est évidemment devenue virale, elle a fait scandale, le violeur a été expulsé, la candidate a porté plainte, la société de production s'est excusée. Ces images, a-t-elle dit, n'auraient jamais dû être diffusées. Alors, on est d'accord, hein, mais si on pouvait ajouter au passage que cette jeune femme n'aurait jamais dû être violée, comment vous dire, ce serait pas mal non plus. Hein.
Julia Foyce, pas son genre dans le monde, c'est tous les mardis dans Un jour dans le monde, merci.
Fabienne Synthès, le 18-20.
Le Monde à l'envers et Jean Marfour. Jean Marc, progressivement, l'ampleur de la répression de ces derniers jours en Iran apparaît au grand jour. Plus de 200 morts, selon des estimations hier soir d'Amnesty International. Mais vous vous demandez si cette attitude violente du pouvoir n'est pas en fait le signe de sa faiblesse. C'est votre monde à l'envers.
C'est un massacre à huis clos, hein. Sans doute le plus violent, le plus massif depuis la révolution islamique dans le pays il y a 40 ans. Plus les jours passent, plus les témoignages concordent. L'opposition iranienne en exil, les Moudjahidines du peuple, va même jusqu'à avancer le chiffre de 750. Mais on va le retenir parce que c'est une organisation très controversée. L'estimation d'Amnesty International semble en effet plus fiable, au moins 208 morts, ce qui est déjà énorme. Les arrestations se comptent par milliers, des dizaines de villes ont été touchées par la contestation. Téhéran bien sûr, mais aussi Shahriar dans sa banlieue ouest, ou bien Shiraz au sud du pays. Ce sont surtout les classes moyennes qui semblent être descendues dans la rue après une forte augmentation des prix de l'essence, qui sont quand même passés en gros de 8 centimes à 20 centimes le litre. À l'arrière-plan, il y a une inflation galopante, 40% officiellement, sans doute beaucoup plus. Une économie en chute libre, 10% de PIB de moins en un an. En face, le pouvoir a donc utilisé la manière forte, mais le plus révélateur, c'est bien qu'il a cherché à dissimuler l'ampleur de la répression. La télévision d'État se refuse à avancer un chiffre sur le nombre de morts et d'arrestations. Dans le même temps, l'accès à Internet a été coupé dans le pays le 16 novembre et le rétablissement n'est que progressif. Donc tout ça démontre bien une chose, c'est que Téhéran a opté délibérément pour le huis clos, étouffer l'information parce que, on le sait, c'est le meilleur carburant de la contestation. Ce silence radio, oui, c'est donc bien aussi un aveu de faiblesse, le révélateur de la peur, la crainte de voir la colère sociale se propager.
Et alors en plus, la contestation anti-iranienne touche aussi les pays voisins.
Oui, et ça c'est un fait nouveau. Téhéran, là aussi, a de quoi être gagné par le doute. En Irak d'abord, les manifestations des dernières semaines ont tourné à la colère contre l'Iran, dont le consulat a même été attaqué à Najaf, qui est pourtant une ville sainte du chiisme, donc a priori très liée à l'Iran. Les Irakiens irakiens dénoncent l'ingérence de l'Iran dans leurs affaires, en particulier le rôle joué par Qassem Soleimani, c'est-à-dire le puissant chef des Pasdaran, les gardiens de la révolution. Même les dirigeants chiites irakiens, l'ayatollah Sistani, le leader politique Moqtada Sadr, critiquent l'attitude du voisin iranien. Et au Liban, les lignes bougent à peu près de la même manière que les chrétiens, les sunnites libanais s'en prennent à la mainmise de Téhéran. Là, il n'y a rien de très surprenant ou très nouveau. En revanche, de nombreux partisans du Hezbollah chiite critiquent également désormais le rôle de l'Iran, son influence excessive, sa complicité avec la corruption endémique au Liban. Donc là encore, la position de Téhéran est faible. La célèbre grande alliance chiite du Moyen-Orient, l'arc chiite, comme on le surnomme, a du plomb dans l'aile. Et c'est toute la stratégie iranienne dans la région, s'opposer en libérateur contre les, je cite, oppresseurs au pouvoir, qui tremble sur ses fondations. Le pouvoir iranien est donc faible à l'intérieur, mais aussi affaibli à l'extérieur.
Et donc, Jean-Marc, c'est le début de la fin pour le régime islamique de Téhéran, c'est ça? Vous n'allez pas nous dire que c'est aussi simple, évidemment?
C'est évidemment pas aussi simple. Affaibli, ça ne veut pas dire enterré. Oui, le régime est affaibli, en grande partie à cause de l'embargo américain, dont c'est d'ailleurs l'objectif. Washington parie sur le fait que la contestation sociale, nourrie par l'étranglement économique, finira par avoir la peau du régime iranien. Seulement, c'est là que les États-Unis, très probablement, se trompent. L'étranglement économique est en train d'avoir la peau de la population iranienne, pas du régime. Même s'il a peur, le régime, lui, reste puissant. Les Pasdaran n'ont pas les poches vides, hein. Ils tiennent les rênes de l'économie parallèle. Ils utilisent certains ports irakiens pour contourner l'embargo. Et puis, la répression de ces derniers jours, elle a aussi son objectif à usage immédiat, c'est-à-dire éliminer un certain nombre d'opposants, effrayer les autres, régner par la terreur. Pour ne rien arranger sur le dossier du nucléaire, l'embargo semble avoir un effet contraire à son objectif. Les partisans du durcissement l'emporte. C'est précisément donc parce que le régime est affaibli, parce qu'il a peur, parce qu'il se sent menacé, qu'il se braque. Ça n'en devient que plus dangereux. Dangereux pour la population iranienne, dangereux aussi pour les équilibres dans tout le Proche et le Moyen-Orient.
Jean-Marc Fauré et Le Monde à l'envers, merci beaucoup. On reste ensemble, nous, pour le téléphone sonne. C'est juste après le journal de Sébastien Power. Ne bougez pas.